Adrien Toffolet vous présente le journal. Bonjour Adrien.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le plan Vigipirate à son niveau maximum, la France repasse en urgence attentat, décision justifiée par Gabriel Attal qui hier évoque l'attaque du groupe État islamique en Russie, mais aussi les menaces qui pèsent sur la France. Nous ferons le point dès le début de ce journal.
Emmanuel Macron est attendu en Guyane ce matin, 7 ans après son dernier passage sur le territoire.
Le chef de l'État fera le point sur les avancées promises en matière d'accès aux services publics. La société civile lui demande des comptes. Une commission vérité, notamment sur le passé colonial dramatique du territoire.
Direction la Russie. Ensuite, les quatre auteurs présumés de l'attaque terroriste près de Moscou ont été entendus par la justice hier.
Image glaçante de ces hommes accusés de terrorisme violentés depuis leur arrestation samedi. Nous serons à Moscou dans ce journal. Et puis, juste après ce journal, à 8h16, le billet politique à la veille des états généraux de l'immigration organisés par Jordan Bardella. Jean Lemarié posera la question suivante. Le Rassemblement National va-t-il copier la droite. La menace terroriste en France était moins forte depuis le début de l'année. Le gouvernement avait même décidé en janvier d'abaisser le niveau d'alerte du plan Vigipirate. L'accalmie a été de courte durée. Hier soir, Gabriel Attal a annoncé un retour à l'urgence attentat, le plus haut niveau d'alerte Vigipirate. Bonjour Nicolas Ballu.
Bonjour.
La menace terroriste augmente à l'étranger, on l'a vu en Russie, mais aussi en France.
Oui, alors la décision de rehausser le niveau Vigipirate a été prise à l'issue d'un conseil de défense hier soir, compte tenu de la revendication de l'attentat par l'État islamique et des menaces qui pèsent sur la France, affirmait hier soir Gabriel Attal. Et Matignon de préciser, la revendication émane de l'État islamique au Khorassan, qui menace aussi la France et a été impliqué dans plusieurs projets d'attentats récents, déjoués dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Allemagne et la France. Autre menace, elle date de plusieurs mois, celle d'Al-Qaïda, qui en septembre dernier visait la Suède et l'Hexagone. La menace d'attentats projetés de l'extérieur n'a pas complètement disparu, mais ce qui inquiète également les renseignements, c'est l'arrivée d'une nouvelle génération très jeune qui a aussi plus ou moins grandi avec les vidéos de l'EI. Ces jeunes qui peuvent passer à l'action avec des moyens rudimentaires. Regardez ce qui s'est passé avec l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras en octobre dernier. La France était passée juste après au niveau urgence attentat. Cela veut dire que les endroits sensibles comme les gares ou les établissements scolaires vont être particulièrement surveillés pour un temps indéterminé. Chaque attentat a pour conséquence de mettre en ébullition la djihadosphère. On n'ira pas expressément ceci au relèvement du niveau Vigipirate, mais il faut savoir en outre que depuis mercredi, 150 lycées et collèges des Hauts-de-France et d'Île-de-France ont reçu des menaces d'attentat, notamment pour aujourd'hui, après le piratage informatique de leur ENT, l'espace numérique de travail. Dans les Hauts-de-France, aucune fermeture n'a été décidée, mais la reprise des cours se fait avec des conditions de sécurité renforcées, indique la préfecture de la Somme.
Nicolas Ballu, merci. Hors des frontières françaises, l'inquiétude du gouvernement porte également sur la situation des ressortissants français en Haïti. Il n'est pas question de risque terroriste là-bas, mais de la violence des gangs, du chaos qui règne sur l'île et de la crise humanitaire qui en découle. Le Quai d'Orsay a annoncé hier la mise en place de vols spéciaux pour permettre aux plus vulnérables, s'ils le souhaitent, de rentrer en France. Emmanuel Macron sera dans cette partie de l'hémisphère. D'ailleurs, tout à l'heure, le président de la République entame ce matin une visite de 2 jours en Guyane, un territoire qu'il n'a pas visité depuis 2017. La Guyane venait de vivre un mouvement social massif auquel il avait répondu par une phrase qui avait fait polémique là-bas. « Je ne suis pas le Père Noël ». Des promesses qui avaient tout de même été faites en matière d'accès aux services publics et de sécurité face à la criminalité liée à l'orpaillage illégal. Emmanuel Macron fera le bilan des avancées sur place. De nombreuses voix lui demandent également une prise de parole sur une page sombre de l'histoire coloniale, celle des enfants issus des communautés autochtones scolarisés de force dans ce qu'on appelle les homes indiens, des pensionnats gérés et dirigés par l'Église catholique avec le soutien de l'État. François Chagnot, la société civile guyanaise et des spécialistes du droit réclament la création d'une commission vérité.
Contrairement à ses parents, Eric Louis n'a pas connu les hommes indiens. Ce chef coutumier d'un village de Kourou constate tous les jours l'ampleur du traumatisme.
On a été mis à côté de la société guyanaise. Donc il nous faut cette reconnaissance, on va dire cette réappropriation de notre histoire, qu'elle soit véritablement diffusée. On ne demande que justice.
Et c'est justement le rôle que pourrait jouer cette commission vérité, explique Jean-Pierre Macias, professeur de droit public et président de l'IFJD, une ONG à l'origine d'un rapport sur le sujet.
L'objectif de cette commission vérité serait de faire la lumière sur ce qui s'est passé dans les homes indiens et de voir notamment si les élèves amérindiens qui y ont été placés n'ont pas subi de violence, qu'il n'y a pas de sanctions à l'endroit de ceux qui ont commis des crimes. En revanche, il y a des mécanismes de réparation pour permettre aux victimes d'être restaurées dans leur dignité, éventuellement de recevoir des excuses.
Les commissions vérité sur les pensionnats autochtones existent aux États-Unis, au Canada, en Australie, en France également, mais sur d'autres sujets.
La commission qui avait été mise en place pour les enfants transportés de la Réunion vers la Creuse. Il y a l'exemple de la SIAZ, la commission qu'a dirigée Jean-Marc Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église catholique. La France est en train de découvrir une forme de justice mémorielle et systémique qui évite les mises en cause individuelles, mais qui permet de réconcilier la société.
Mais pour qu'une commission vérité fonctionne, elle doit remplir certaines conditions, précise Jean-Pierre Macias.
Il faut que ça soit un dispositif inclusif et indépendant. Ça veut dire qu'on fasse mettre dans la commission des gens de tous les horizons, des juristes, mais aussi des médecins, des psychologues, des historiens, la société civile guyanaise et notamment les mouvements amérindiens, mais aussi l'Église et l'État.
Il ne manque plus que la volonté politique. Le leader autochtone Éric Louis tentera de convaincre Emmanuel Macron en Guyane.
Les militants anti-bassines fêtent le premier anniversaire de leur mobilisation à Sainte-Soline par une plainte contre le ministre de l'Intérieur. Hier, le collectif Bassines Non Merci a annoncé le dépôt d'une plainte devant la Cour de justice de la République contre Gérald Darmanin, accusé d'avoir menti sous serment devant la commission d'enquête parlementaire qui s'était penchée sur le déroulé de la manifestation du 25 mars 2023. Le rassemblement, interdit par la préfecture, avait été le théâtre de violents affrontements entre gendarmes et manifestants. Un événement qui a eu des répercussions depuis un an. Les méga-bassines ont continué à alimenter l'actualité, Véronique Robérotte.
Aux grandes dames du gouvernement et du ministre de l'Intérieur. Pour Gérald Darmanin, les modes opératoires d'une partie des opposants les plus violents à l'installation de méga-bassines relevaient de l'écoterrorisme. De quoi justifier une dissolution des soulèvements de la terre. Un décret sera pris en ce sens en Conseil des ministres en juin 2023, mais il sera annulé quelques mois plus tard par le Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative avait alors estimé qu'aucune provocation à la violence contre les personnes ne pouvait être imputée aux militants des soulèvements de la terre. Exposition maximale pour les opposants aux méga-bassines qui n'en demandaient pas tant, engagés entre-temps dans d'autres luttes, comme celle contre l'A69, pour en faire là aussi un enjeu national. L'épisode dissolution aura engendré la création de nombreux collectifs, plus d'une centaine de groupes locaux créés dans l'année. En janvier dernier, le tribunal de Niort a condamné des figures des collectifs avec des peines de prison avec sursis. Ils ont fait appel, rappelant aussi au passage que quelques mois plus tôt, le tribunal administratif de Poitiers avait lui invalidé les projets de 15 bassines au motif qu'ils ne permettaient pas de diminuer les prélèvements en eau.
Et ce lundi, des célébrations sont organisées par les militants de Sainte-Soline. Au moins une trentaine de méga-booms sont annoncés devant des gendarmeries et des préfectures en référence aux 5000 grenades lacrymogènes tirées lors de l'opération dans les Deux-Sèvres. La plateforme Un Jeune, une solution sera accessible dès aujourd'hui pour aider les 560 000 élèves de seconde des filières générales et technologiques à trouver un stage obligatoire à réaliser en juin prochain. Le stage en entreprise, association ou service public imposé à partir de cette année par Gabriel Attal qui souhaite reconquérir le mois de juin considérant que les jeunes de seconde avaient trop de vacances l'été.
8h08 sur France Culture, la suite du journal d'Adrien Toffolet en Russie. C'était jour de deuil national hier après l'attentat terroriste qui a frappé la banlieue de Moscou.
Un drapeau en berne après le terrible attentat de vendredi, 137 morts dans une salle de concert et plus de 180 blessés. Attentat revendiqué par le groupe État islamique que la Russie combat en Syrie. Mais pour les autorités russes, Vladimir Poutine en tête, une piste ukrainienne est privilégiée. Les forces de l'ordre russes avaient d'ailleurs très vite annoncé l'arrestation de plusieurs personnes qui se dirigeaient, selon le Kremlin, vers l'Ukraine. Quatre d'entre elles ont été présentées hier comme les auteurs de l'attaque, ont été déférées devant la justice et placées en détention. Bonjour Sylvain Trochet.
Bonjour.
Notre correspondant permanent à Moscou. Sylvain, le tribunal a même largement diffusé des images de leur comparution en pleine nuit, mise en scène complètement glaçante.
Oui, c'est une scène qui illustre parfaitement la violence légitime de l'État en Russie. Quatre hommes arrivant au tribunal en pleine nuit, entourés de membres du FSB, cagoulés. Les quatre suspects portent tous des traces de sang. Ils ont l'air hagards. Les forces de l'ordre n'ont absolument pas cherché à dissimuler les traces de torture qu'ils ont subies. L'un d'eux porte un énorme bandage sur la tête. On lui a découpé un morceau d'oreille au couteau. Un autre porte autour du cou les restes d'un sac plastique. Un autre, enfin, qui ne peut pas marcher et transporté sur une chaise roulante et muni d'une sonde urinaire. L'audience s'est tenue à huis clos, mais le pouvoir russe n'a pas diffusé ces images par hasard, tout comme il n'a probablement pas fait fuiter par erreur sur les chaînes Telegram des propagandistes une photo où l'on voit l'un des suspects apparemment torturé à l'électricité. Les forces de sécurité russes sont pointées du doigt par une partie de la population aujourd'hui pour leur manque de réaction vendredi soir et leur incapacité à prévenir cet attentat. Leur réponse est arrivée hier soir. Il est possible que les quatre suspects soient bien les membres du commando qui ont attaqué le Krokus City Hall. Mais que valent leurs aveux prononcés hier soir dans ces conditions ?
Sylvain Tronchet à Moscou. On se dirige peut-être vers un séisme politique au Sénégal. Selon de premiers résultats partiels communiqués à la télévision, l'opposant anti-système Bassirou Diomaye Faye devancerait le candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba. Mais les résultats définitifs ne seront pas connus avant plusieurs jours. Le camp d'Amadou Ba, dauphin du président Macky Sall, se dit quant à lui certain que dans le pire des cas, il y aura un second tour et dénonce une tentative de manipulation de l'opinion. Alors que la situation humanitaire est toujours dramatique à Gaza, c'est aujourd'hui que le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenter à nouveau d'adopter un texte exigeant un cessez-le-feu immédiat entre le Hamas et Israël, avec un probable soutien américain qui semble changer de ton vis-à-vis de son allié israélien. Vendredi, un projet de résolution américaine soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu avait été retoqué à cause de la Russie et de la Chine qui avaient mis leur veto. Israël, pendant ce temps, se préoccupe de son offensive en ce moment sur l'hôpital Al-Shifa et sur la suivante, promise depuis des semaines, sur la ville de Rafah pour traquer le Hamas, sans oublier les négociations au Qatar, dont on peine encore à percevoir une issue favorable. La question des otages, toutefois, semble mise de côté. Ils sont encore 130 aux mains du Hamas. 33 seraient morts, selon les autorités israéliennes. Aujourd'hui, pour leurs familles, il y a la peur de l'oubli et l'espoir de les retrouver qui s'amenuise. Reportage de Thibault Lefebvre.
171 jours, presque 6 mois, que Yishai Dan a arrêté de vivre.
J'ai compris que j'ai perdu le mot « espoir ».
Son neveu, Ofer Calderon, est l'un des trois derniers Français otages du Hamas. Et il y a pour cet ancien metteur en scène de 82 ans, un seul et unique responsable.
Netanyahu, il fait tout pour mettre des bouts de bois dans les roues, contre les familles. Tout le pays est bouleversé.
Jeudi dernier, des familles d'otages se sont invitées à une des grandes prières de la fête juive de Pourim au mur des Lamentations. Gilles Dickmann était présent et il tenait à bout de bras le portrait de sa cousine, Carmel.
Notre plus grande peur, c'est que les Israéliens et les gens dans le monde oublient la situation des otages, celle des familles, et continuent à vivre leur vie. Notre mission, c'est de faire en sorte qu'ils n'oublient pas qu'il y a encore 134 otages et que la plupart d'entre eux sont vivants. La seule manière d'être certain de les retrouver vivants, c'est de trouver un accord.
Gilles Dickmann et des membres de 80 autres familles d'otages ont envoyé la semaine dernière une lettre à Joe Biden et ils ont imploré le président des États-Unis de convaincre Benjamin Netanyahou de trouver un terrain d'entente avec le Hamas.
Direction la Turquie à présent, dans la dernière ligne droite avant les élections municipales du 31 mars, un scrutin local, mais à l'enjeu national. Le président Erdogan espère parachever sa mainmise sur le pays, sa présidence toute puissante, le parlement dominé par son parti, l'AKP. Ne reste à l'opposition que les grandes villes, au premier rang desquelles Istanbul, où Recep Tayyip Erdogan tenait meeting ce week-end, Marie-Pierre Véraud.
Un meeting de soutien au candidat AKP qui affronte le maire sortant İmamoğlu. Murat Kurum porte les espoirs de revanche du président. Reprendre Istanbul, la ville phare de Turquie. Mais ce n'est pas Kurum que les militants sont venus voir. On est là, dit cette jeune femme, parce que le raïs nous l'a demandé. C'est bien Erdogan que tous veulent acclamer. Herminée sans flamme. C'est très important d'être là, dit-elle. Le raïs est unique, que Dieu lui donne longue vie. C'est un leader mondial. Le président pousse la chansonnette avant de promettre une ère nouvelle pour Istanbul. Pour la journaliste Barçın İnanç, le résultat de dimanche aura de profondes répercussions.
Les résultats des élections municipales ont des conséquences sur l'avenir du président Recep Tayyip Erdogan et sur l'avenir de la démocratie en Turquie qui a régressé malheureusement sous le règne de Erdogan. Et là, tous les yeux seront sur Istanbul. Si M. İmamoğlu gagne les élections à Istanbul, il deviendra le rival le plus sérieux contre le président Erdogan dans 4 ans quand il y aura des élections présidentielles.
Les sondages donnent amène les deux candidats au coude à coude pour ces municipales antichambre de la présidentielle.
Marie-Pierre Véraud, la météo de ce lundi, un ciel voilé ce matin avec des pluies sur la Bretagne, cet après-midi de la grisaille sur une large moitié ouest du pays en Méditerranée. Les températures sont fraîches, autour de 5 degrés pour les minimales ce matin, au-dessus de 10 au sud uniquement. Cet après-midi, comptez entre 11 et 16 maximum.